Donc, nous allons ouvrir la parole du Seigneur au chapitre 4 de l'Épître de Jacques et nous allons lire les versets 11 à 17 qui me semblent suivre un peu dans le texte. C'est pas toujours simple de découper un texte, de savoir qu'une péricope finit ici et qu'une autre commence là, mais il m'apparaissait bon donc ici de faire les versets 11 à 17 ensemble. J'ai failli aller en fait jusqu'au chapitre 5, verset 6 aussi, parce que c'est une autre recommandation, mais ça faisait une péricope un peu longue. Alors, nous allons faire 11 à 17. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses et ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Que le Seigneur bénisse cette parole qui nous parle déjà beaucoup d'elle-même. Qu'elle puisse la bénir à nos cœurs et nous aider à l'approfondir un peu et à voir comment ça s'applique dans chacune de nos vies. Au chapitre 3, vous vous en souviendrez, on avait déjà eu un enseignement puissant sur la question de la langue. Mais voilà qu'ici, Jacques y revient dans une perspective un peu différente, mais qui laisse encore quand même transpirer l'activité incessante de la langue. Nous sommes, on l'a déjà dit à maintes reprises, nous sommes des créatures de la parole. Et en raison du fait que nous sommes porteurs de l'image de Dieu, nous avons reçu le beau don de la parole, le beau don de la pensée discursive, et bien sûr qu'en raison de la chute, nous en faisons tellement souvent de fois un très mauvais usage. Dans les passages que nous avons vus dans cet épître, Jacques à parler de la mondanité. Et j'espère qu'on s'est en quelque part senti quelque peu interpellé. Au quotidien, nous sommes bombardés, parce qu'on vit dans un monde prédateur, hein? On vit dans un monde qui carbure littéralement à la mondanité. Alors, nous sommes bombardés par la pléthore des tentations de la mondanité, et souvent de fois, nos cœurs sont infectés par des désirs mondains. Qu'est-ce qu'un désir mondain, sinon qu'un désir qui ne s'harmonise pas avec la volonté de Dieu? Alors, lorsqu'on lit les versets qu'on vient de lire, il ne faut pas les voir comme une médecine amère. Quand on dit à un enfant, bon, ça goûte mauvais, mais ça va te faire du bien. Non, il ne faut pas voir ça comme une médecine amère, mais bien plutôt comme une évidence de l'amour de notre Dieu. On va voir en effet deux exemples de langage ici qui indiquent un égocentrisme mondain, qui indique que quelqu'un est centré sur lui-même, un manque d'humilité. Et les deux sont liés à la langue, d'où le titre de mon message, « Le péché au bout de la langue ». Vous savez, des fois, on a quelque chose au bout de la langue, là. Bien là, c'est le péché qu'on a constamment au bout de la langue en tant que créature post-lapsaire, créature d'après-chute. J'ai divisé, donc, dans mon désir d'être fidèle au texte, je l'ai divisé en trois points. Premièrement, la langue assassine. Deuxièmement, la langue orgueilleuse. Et troisièmement, la langue pécheresse. Premièrement, la langue assassine. On s'est amusé un peu, avant le culte, avec mon frère Pierre, à discuter de l'époque où on parlait des péchés capitaux. Hein? Ceux qui sont comme moi d'arrière-plan catholique, ça doit vous rappeler un tout petit peu ce qu'étaient les péchés capitaux, en fait. Ce n'est pas une notion nouvelle, ça date du 4e siècle. C'est qu'à un moment donné, les moines de l'époque ont voulu dresser une liste de péchés particuliers. Ce n'était pas des péchés plus graves que les autres, mais le mot capitaux vient de capita, qui veut dire tête. Des péchés qui sont en haut de la liste et qui entraînent les autres. Alors, on les a appelés, donc, à l'époque, les péchés capitaux. Et au 13e siècle, Thomas d'Aquin les a tout organisés, là, et bien synthétisés à sa manière. Et c'est intéressant parce que, de tous ces péchés capitaux-là, la calomnie est absente. Est-ce que c'est pas un peu étonnant? Hein? On retrouve en effet l'orgueil, l'avarice, l'impureté, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Péchés capitaux. Mais la calomnie n'y est pas. Et c'est d'autant plus étonnant qu'elle aurait dû se retrouver à la tête de la liste des péchés capitaux. Parce que c'est un péché qui est tellement destructeur. Peut-être qu'on peut la placer, je ne sais pas, sous le couvert de l'orgueil, mais d'une façon ou d'une autre, elle n'est pas mentionnée. Et dans le monde d'aujourd'hui, on ne remarque plus cela, la calomnie. La liberté de parole, on peut dire n'importe quoi, raconter n'importe quoi, et ce n'est pas toujours simple de poursuivre pour des propos démesurés. C'est tellement répandu. Pardon? Voilà, on n'a plus le droit de dire ce que tu penses. Alors, donc, on voit n'importe où dans le monde aujourd'hui, on ne remarque même plus tellement il est répandu. On voit même à la télé, sur les médias sociaux, dans les journaux, toutes sortes de discours dévastateurs. Et on n'a pas le choix de rester désinvolte. On ne peut rien faire, on ne peut rien dire. Que fait la calomnie? La calomnie, elle s'attaque directement à la réputation d'autrui. La calomnie, elle s'attaque à diminuer quelqu'un dans l'estime des autres. Et c'est fait de manière, généralement de manière malicieuse. Vous voyez, la calomnie, en fait, elle a deux caractéristiques. Deux caractéristiques que je dirais fondamentales. D'abord, elle est dévastatrice. On peut dévaster, on peut briser littéralement la réputation de quelqu'un avec des propos bien choisis, malicieux, hein, et dit avec affection, et ça a l'air, bon, de ce que ça a l'air. Alors, elle est dévastatrice, mais elle est comme la mauvaise herbe, elle est comme la pollution, elle est omniprésente. Et la Bible en parle abondamment, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Nous avons donc l'injonction du verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère. D'abord, qu'il nous soit permis de noter que ce n'est pas quelque chose qui se passe au dépanneur du coin entre deux voisins. Mais ça se passe dans l'Église. Vous aurez peut-être noté que le mot frère revient trois reprises dans ce verset-là. Le mot frère revient trois reprises. Ce sont nos relations fraternelles ici qui sont en cause. On n'empêchera pas le monde d'y aller, c'est mieux là-dedans. Mais l'Église est appelée à faire mieux que cela. La repentance, c'est un renversement de nos anciens comportements qui sont devenus tellement habituels, hein, qu'ils étaient devenus notre manière de vivre, notre modus operandi, notre modus vivendi. La repentance, elle commence à produire de bons fruits. Une fois qu'on s'est repenti, on n'est pas glorifié encore. On commence la route vers dans la sanctification. Donc, la repentance commence à produire de bons fruits là où il n'y en avait que des mauvais. La parole de Dieu, tout au long, nous exhorte à nous soutenir, à nous encourager, à nous estimer mutuellement et non à nous démolir. Est-ce que ce n'est pas l'essence même d'une Église? On n'est jamais appelé à se démolir. On peut apporter certaines critiques, on peut apporter des remarques qui parfois peuvent faire très mal pour le bien de la personne, mais on n'est jamais appelé à se démolir, à se détruire, à démolir notre estime de quoi que ce soit, notre estime du Seigneur surtout, et à démolir notre désir de marcher fidèlement dans ses voies. Nous sommes dans l'œuvre de la construction de l'Église. On vient de passer trois quarts d'heure tantôt à parler d'édification à l'école du dimanche. Bien, c'est ça l'œuvre de l'Église, l'édification. Qui plus est, parler mal les uns des autres, c'est synonyme de jugement. Ah. Le verbe « krino » qu'on retrouve ici dans le grec ne se rapporte pas à l'évaluation de quelqu'un, mais à la condamnation. Et d'ailleurs, c'est bien traduit. « Juge son frère ». Il dit, papa, laisse-moi évaluer mon frère à tes oreilles. Hein? Puis là, on commence à en dire, non, non, c'est porter un jugement radical sur quelque chose de tout à fait précis. Alors, ce n'est pas une évaluation, mais littéralement, c'est un jugement. Galates, c'est une condamnation. Galates 5,15 nous dit, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Le problème, c'est que ce n'est pas seulement écrit dans Galates. Le problème, c'est que c'est écrit aussi dans l'histoire de l'Église. Amen. Combien d'églises ont été démolies, combien de fraternités ont été brisées, rompues. On pense aussi aux paroles mêmes du Seigneur Jésus en Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez point, tout le monde l'a entendu, cela même les gens du monde la connaissent. Hein? Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ici, une précision s'impose. On utilise souvent ces versets-là à tort et à travers. Trouvez-vous cela? On fait une remarque à quelqu'un, hey, « tu me juges, tu n'as pas le droit de me juger. » Vous êtes-vous déjà fait répondre cela? Tu manques d'amour, hein, la grande toune évangélique. Tu manques d'amour, tu me juges. On a tout le catalogue des vertus chrétiennes violées quand on fait une remarque à quelqu'un sur une base biblique. Il faut faire très attention, c'est non seulement un droit, mais c'est un devoir que de reprendre autrui, que de s'exhorter mutuellement et d'être capable de se reprendre sur une base biblique dans l'amour fraternel. Jacques, le demi-frère du Seigneur, n'est pas en train de dire qu'on ferme sans discernement l'oreille à tout ce qu'on entend. Il ne dit pas non plus qu'on doit s'abstenir de faire une évaluation biblique d'une personne ou de son action. Une condamnation, c'est une mouvance, une évaluation, c'en est une autre. Non plus qu'il ne dit qu'on ne devrait jamais rien dire de négatif au sujet d'un autre. Jamais, c'est pas ce que Jacques nous dit du tout. Jacques lui-même, d'ailleurs, aurait manqué à sa propre injonction à partir des propos qu'il tient au sujet des autres dans cette lettre-là qu'il signe de sa propre main. Ce à quoi il fait référence ici, c'est un discours malicieusement destructeur d'un autre. Et c'est un combat que nous menons tous. Le grand prophète messianique par excellence, Ésaïe, chapitre 6, verset 5, de dire « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Tout le monde a des lèvres impures. Ce sont des paroles importantes à se rappeler. Surtout lorsqu'on s'approche de la table sainte pour dire « Nous formons un seul pain, on est unis, on se... Hein? » Des paroles importantes de se rappeler que notre langue peut être très, très, très divisible. En fait, on retrouve cinq éléments qui se dégagent des versets 11 et 12. Premièrement, comme on l'a vu il y a quelques instants, il faut nous rappeler de qui nous parlons quand on parle d'un frère. Qui sommes-nous en train de détruire? Bien, nous sommes en train de détruire un frère, une sœur. Un frère avec lequel nous allons passer l'éternité. On peut, dans une famille, avoir de sérieuses divergences de vues, vous savez. On peut se tomber sur les nerfs, même, mutuellement. Et parfois même s'attaquer. Mais on ne permettra à personne de l'extérieur de venir toucher à notre famille ou à l'un de ses membres. Soyons donc les premiers à prendre soin les uns des autres. Deuxièmement, non seulement il faut penser de qui nous parlons, mais aussi de quoi nous parlons. Ces gens auxquels Jacques s'adresse ont une immense révérence pour Dieu. Ils ont une immense révérence pour sa loi, à laquelle, bien sûr, ils veulent se soumettre. Cependant, le texte dit que parler mal d'un frère, en réalité, c'est parler contre la loi de Dieu. On va y revenir sur cette question de la loi tantôt dans un instant. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Troisièmement, il nous dit, tu n'es pas juge de la loi, toi-même tu y es soumis. Et ce genre d'exercice-là de parler d'un frère, c'est se placer au-dessus de la loi. Imaginez par exemple que vous êtes en cours pour votre procès devant le juge et les membres du jury, et vous dites pour votre défense, moi je suis au-dessus de la loi. Hein? La loi dit cela, mais moi je suis au-dessus de cela. Je fais fi de ce que la loi me dit, je suis au-dessus de la loi. Ben, c'est un peu cela, parler mal d'un frère. Samuel, envoyé par Dieu pour choisir un roi, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait ce qui frappait les regards. Hein? Le Seigneur regarde beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément, lorsqu'il a fait le choix de David. Et ce troisième point nous amène au quatrième, qui lui est complémentaire, au verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Qui es-tu? Qui crois-tu être? Toi qui juges la loi. Tu es le jugé, tu n'es pas le juge. C'est ultra mauvais que de prendre ainsi la place de Dieu. Il faut garder à l'esprit que l'humilité, c'est la grâce première. C'est elle qui nous amène finalement à la repentance, c'est elle qui nous amène à la reconnaissance de notre dépendance de Dieu. Le combat de notre vie chrétienne, vivre comme des dépendants de Dieu, ne jamais reprendre des choses en main nous-mêmes, ne jamais sauter de l'autel, comme je vais dire souvent. De quelle loi Jacques fait-il mention ici, selon vous? Celui qui parle mal d'un frère parle contre la loi. Il parle manifestement des 10 commandements. Il parle de la loi mosaïque. Lorsque le Seigneur synthétise la loi, qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer son prochain? On retrouve cela, hein? On retrouve les deux tables de la loi dans Exode 20, verset 13-17. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. En termes contemporains, si tu aimes ton prochain, tu lui veux du bien. Tu veux vraiment lui faire du bien. Tu veux vraiment faire pour lui ce qui va contribuer à l'édifier, à rendre son bonheur plus grand encore, à rendre sa vie plus épanouie. Tu n'essaieras pas de lui faire tort, tu n'essaieras pas de lui nuire, comprends-tu? Tu n'essaieras pas de dire des choses qui vont le démolir, surtout si c'est fait malicieusement ou si ça n'a pas sa raison d'être. Tu n'essaieras pas de le priver de son bien, de le voler. Tu n'essaieras pas de convoiter ou de faire montre de jalousie. Ça peut venir en ton cœur, ces tentations-là, parce que nous avons encore le péché rémanent en nous depuis la chute, même si nous sommes justifiés. Et nous avons à combattre parfois les mauvais sentiments qui nous viennent dans le cœur et qui nous viennent dans l'esprit. On est constamment en train de combattre. On n'est pas en train de combattre Satan. On commence par se combattre soi-même. Notre propre dépravation, lorsqu'on est tenté, on ne dit pas « Satan me tente hein? », on est tenté lorsque nous sommes amorcés par notre propre chair. M'excuse, Carmela, j'ai parlé vite un peu. Hein? Et ça m'amène à mon deuxième point, la langue orgueilleuse. Ben, c'est difficile de ne pas penser à Nebuchadnezzar quand on parle de langue orgueilleuse. Daniel chapitre 4, versets 30 à 37, que je vous lis. Le roi Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici la Babylone la grande ?» que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma propre force et pour la gloire de ma magnificence. » On lit ça, puis on dit, c'était cœur. Hein? C'est vrai, hein? Ça vient nous chercher. Hein? C'est épouvantable de dire une chose comme ça. La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes. » Et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je rétablis mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Quel texte! Quel texte! Mais on dit, quelle arrogance chez ce roi-là! Quelle impudence! Puis en même temps, on se rappelle que ça nous ressemble un peu pas mal. Ça nous ressemble même beaucoup, à tellement d'égards. Qu'est-ce qu'on a souvent envie de dire à nos enfants lorsqu'on parle de leur avenir? Non seulement je l'ai entendu, mais je l'ai dit moi-même. Trouve-toi un bon métier pour bien gagner ta vie, comme si c'était important, hein, de bien gagner sa vie. Ça a une importance, mais ce n'est pas primordial. Une petite place tranquille où tu vas pouvoir vivre tranquille, puis une petite église pas trop compliquée. Tu vas être heureux pour le restant de tes jours. Est-ce qu'on pense à la pensée de Dieu? Est-ce qu'on a la volonté de Dieu à l'esprit à ce moment-là? Est-ce qu'on a une idée des visées et des intentions de l'Éternel sur nos enfants? Quelle est la volonté de Dieu pour ce jeune-là? Combien de fois avons-nous vu des gens s'objecter à voir leur enfant aller dans le ministère en raison de la faible paye, généralement, qu'on y reçoit? Combien ont-on vu des gens s'objecter à voir leur enfant aller dans le ministère en raison du fait que c'était loin et c'était peut-être dangereux? La première chose qu'on considère quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, c'est pas, bien là, il va voir si, il va voir, non. J'en parlais avec Denis justement avant le culte, hein. Qu'est-ce que je dois faire? Le reste, Dieu va en prendre soin. Que ce soit des voyages, que ce soit des dangers, que ce soit n'importe quoi d'autre, le Seigneur va prendre soin de tout cela, quel que soit ce que ça implique, puis je vais le faire avec joie parce que je le fais pour le service de mon Dieu. Vous savez? Voir ça autrement, ce n'est rien de moins que de l'athéisme pratique. Oui, je confesse Dieu, mais je fais les choses à ma manière. Je me divinise. Ce qui importe dans ma vie, ce n'est pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Jésus, Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. On retrouve des paroles très semblables à Gethsémané. « Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, qu'elle s'éloigne, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » David, on dit « Ben Jésus, c'est Jésus. » Mais David, psaume 40, verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Il n'y a pas de division. Volonté et révélation de Dieu, il n'y a pas de division, ça va de pair. On voit donc que ce n'est pas seulement le discours contre les autres qui est destructeur, mais aussi le discours présomptueux qu'on retrouve au verset 13 à 17. Demain, on va faire ce lit. Pendant un an, on va être là. On va faire de l'argent. Comme on dit au Québec, on fait une pièce. Hein, on aime ça. Il y a une pièce à faire avec ça. La présomption, donc, c'est une attitude qui n'épouse certainement pas l'humilité. Soyons clairs. Jacques, ici, ne s'élève aucunement contre la planification. Il ne dit pas « Ne faites aucune planification, allez-y par l'esprit à tâtons. » La planification a sa place. D'ailleurs, on retrouve toute une pléthore de versets à cet effet-là. Les oiseaux qui préparent leur nid, etc., etc., toute la parole de Dieu. Il y a une place pour la préparation et la planification. Donc, il n'est pas en train de dire, il ne s'élève pas contre la planification. On ne s'en va pas les yeux fermés en disant « Advienne que pourra, que sera, sera ». Il ne nous dit pas non plus d'être des mauvais administrateurs des biens que Dieu nous confie, bien au contraire. Ou de ne pas budgéter. Hein, je pourvois vos besoins, pas besoin de budgéter. Non, il faut faire des budgets. Il faut avoir une vie organisée. Une vie désorganisée, ce n'est pas une vie en relation avec Dieu, vous savez. Une vie où on n'a pas d'engagement précis et clair, C'est ce que la Bible appelle être dipsouché, être irrésolu, avoir deux âmes. Ce n'est pas un amour pour Dieu. Ce dont il traite ici, c'est la mondanité qui s'infiltre dans notre pensée et qui se manifeste dans notre discours sans qu'on en soit toujours conscient. Notre culture contemporaine nous incite à la présomption, avec tous les outils technologiques qui nous donnent l'impression qu'on est vraiment en contrôle de la situation. Nous avons un bel exemple de cette réalité-là au verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Un beau plan. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de mal contre cela ici? Est-ce que quelqu'un a une critique à faire contre cette affirmation-là? Moi, je trouve ça formidable, quoi. Hein? C'est pas ce qu'on dit nous-mêmes. Hein? Aujourd'hui ou demain, là, nous irons dans telle ville, on va y passer une année, on va trafiquer et on va faire de l'argent. Bon. D'abord, on peut dire aujourd'hui ou demain, cependant que notre temps n'est pas entre nos mains. On ira dans telle ville, on va y rencontrer des hommes d'affaires, on va faire des études démographiques, on va discuter avec les banquiers. Amen. Aucun détail ne manque. Ce sont des choses très licites qui n'assurent pas de facto le succès, mais qui sont tout à fait correctes. La difficulté ici, c'est que Dieu n'est pas dans l'équation. Dieu est absent de l'équation. Aucune mention de Dieu, aucune allusion à la providence divine, aucune indication de prière quant à la volonté de Dieu. Quelle qu'ait pu être la profession de foi de cet homme, il vit comme un athée pratique. Au mieux, c'est présumé de Dieu. Je le fais, puis certainement que Dieu va me suivre. Dieu devient un bon disciple. Jean qui rappelle donc quatre éléments. Premièrement, nous sommes ignorants du futur. Verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous travaillez avec acharnement, faire montre des plus grands stratagèmes géniaux possibles, mais vous n'avez pas le contrôle du lendemain. Deuxièmement, il nous faut reconnaître notre finitude. Nos jours sont comptés, bien-aimés, versets 14b et 15. Qu'est-ce que votre vie, quelle belle image, qu'est-ce que votre vie, vous êtes une vapeur. Une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Chaque fois que je fais ma tasse de thé régulière, j'en prends 4-5 par jour, l'image me revient. Une vapeur qui disparaît. Quelle belle image, hein? Vous avez de l'eau dans la bouilloire, elle vient en ébullition, la vapeur sort et elle est disparue ensuite. C'est tellement rien. C'est tellement rien. Ben Jacques nous dit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des vapeurs, bien-aimés. Nous vivons constamment à la frontière de l'éternité. On pense souvent qu'on a tout notre temps, et pourtant, on a tout notre temps, soit parce qu'on est jeune, soit parce qu'on est en santé, on ne sait tellement pas. On ne sait tellement pas ce qui nous attend, vous savez. Il y a, je ne sais pas combien de temps, une couple de mois, un moment, trois mois peut-être, quatre mois. 6 heures le matin, je me suis réveillé, je m'étais couché en pleine forme le soir, me réveille le matin en pleine forme, et subitement un petit malaise. Je me dis, bon, je vais me lever, je ne me sens pas bien. Je me lève et blanc, j'écrase par terre, je viens de faire un petit ABC. Qui sait ce qui nous attend le lendemain? Hein? J'aurais pu rester là, le Seigneur a choisi de me relever, mais qui sait ce que sera demain? Ça, c'est des expériences qui font du bien, ça nous amène à voir la réalité des choses de manière plus vraie, plus authentique. Et on élimine, quand on vit quelque chose comme ça, puis qu'on voit qu'on aurait pu y rester, on élimine beaucoup de détails qui nous apparaissent maintenant insignifiants. C'est des détails de la vie niaiseuse. Comprends-tu? On vit pour plus grand que ça. Ces marchands dont il est question ici regardaient leur plan du mauvais bout de la lorgnette. Ils avaient ajusté leur montre sur une fausse vue du temps. S'ils étaient chrétiens, ils avaient oublié la question de Jésus. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? L'importance de penser en termes d'éternité. C'est dans cette perspective que les puritains nous ont laissé ce bel héritage qu'ils ont pris de la parole d'ailleurs, « Deo volente » en latin, « si Dieu le veut »,« God willing », comme on dit en anglais, « Deo volente ». Et ce n'est pas une formule vide, ce n'est pas un cliché de dire « si Dieu le veut ». Alors je dis « si Dieu le veut, donc je suis correct ». C'est beaucoup plus profond que cela. C'est une réalisation, c'est une confession de notre appartenance au Dieu trois fois saint. Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. » Lorsque Dieu est absent de notre planification, nous faisons montre d'orgueil. Comment faire foi le verset 16? « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. » Le verbe « glorifier », « kokaomai », John MacArthur dit, ça veut dire « être fort en gueule, parler fort ». Et c'est un poison pour nos vies. Et ça m'amène à mon troisième point, la langue pécheresse. Une fois qu'on a regardé ces versets-là, qu'on a tenté de comprendre un peu plus en détail, plus en pratique, plus appliqué dans nos vies, ce que ces versets-là peuvent dire, on dit « oui, mais c'est vrai, mais pourquoi en faire un drame ?» Hein? C'est le quotidien, quoi. Tout le monde lutte avec cela. Il y a des choses bien pires. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on est porté à se dire? Ça arrive à tout le monde de dire des choses qu'il ne devrait pas dire ou de planifier sans référence à Dieu. Mais la réponse de Jacques, elle est sans équivoque au verset 17. « Celui, donc, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Et je pense que tout le poids du texte repose sur le verset 17. Le reste devient insignifiant si on n'analyse pas ce qui nous est dit à la lumière du fait que c'est un péché, et ça nous ramène à redéfinir un peu notre notion de péché qui a disparu un petit peu dans notre culture. La question n'est pas « tout le monde le fait, fais le don » ou « puisque tout le monde le fait, ça ne doit pas être si grave ». Non, à mon avis, c'est ici que repose l'énergie du texte, à savoir notre échec à comprendre la réalité et l'inclusivité du péché. Et on retrouve ça dans l'histoire tout au long de la parole de Dieu. Quand vous regardez même dans l'Ancien Testament que vous lisez les discours des prophètes, hein, les gens se demandaient, mais Dieu va venir, là, il va détruire Jérusalem, les Assyriens vont venir, les Babyloniens vont venir, enfin tout le monde vient, ils vont vous démolir. Hein? Et les gens se disaient, mais pourquoi est-ce que Dieu ferait ça? Et les prophètes rephrasaient la question en disant, comment un Dieu infiniment saint pourrait-il faire autre chose que vous condamner, vous qui êtes un peuple au cœur dur et rebelle? Tous les éléments de jugement dans la parole nous démontrent simplement le fait et l'étendue du péché. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Vous savez? Le message de Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », ce n'est pas reçu avec une hystérie quand vous proclamez ça aux gens de la rue, même aux gens de l'Église. Hein? On tend à redéfinir le péché, on tend à le placer en dehors de nous, pour les autres. On tend à le traiter comme une espèce de dysfonctionnement, comme une faiblesse psychologique. Nous vivons dans une culture où les comportements déviants sont la nouvelle normalité. C'est ainsi qu'on ne dit plus que quelqu'un est adultère. C'est grossier, l'adultère. Hein? Il a une affaire ou quelque chose du genre. Ça fait plus noble. Ça fait même impressionnant. Il a une affaire. Hein? Le divorce n'est plus un péché. C'est une relation brisée. Au niveau de toute la question sexuelle, quelqu'un a une sexualité alternative. On a perdu le langage du péché. Même dans l'Église, dans le counseling, la relation d'aide, dans l'accompagnement spirituel, on ne parle plus de sanctification, on parle de guérison. On n'a pas été guéri. Christ nous ressuscite et le reste, c'est la sanctification, c'est cette nouvelle vie reçue qui se développe. Même ceux qui parlent encore du péché, parce que pour certains, on ne devrait pas parler de péché dans l'Église, on a perdu le sens et la compréhension de la nature du péché. On a fait une certaine liste, hein? On est redevenu un peu comme les vieux moines de l'époque, hein? Meurtre, adultère, fraude, alcoolisme et quelques autres éléments du genre. Quant au reste, ce sont des péchés honorables. C'est donc sans surprise, dans une société où on ne croit plus au péché, que la colère de Dieu ne soit plus comprise, voire admise. Comment éveiller un sentiment de péché et comment présenter la grâce de Dieu? Dans un sens, nous ne pouvons pas donner vie à ceux et à celles qui sont morts dans le péché. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Seul cet Esprit a cette prérogative. Péché et grâce vont de pair. Savez-vous cela? Péché et grâce vont de pair. Ça va ensemble, péché et grâce. Dans le sens que on ne peut avoir une juste compréhension de la grâce si on n'a pas une correcte réalisation de la profondeur du péché. Incluant bien sûr le péché rémanent qui nous suit après la conversion. Pourquoi est-ce que les repentances sont tellement superficielles souvent de fois? C'est parce qu'on ne comprend pas de quoi on s'est repenti. On ne comprend pas à quel point notre péché était profond, à quel point nous étions esclaves et à quel point on avait offensé un Dieu trois fois saint. On a vu ça un peu superficiellement. C'est dire que notre besoin de grâce est constant. On ne peut d'aucune façon prétendre pouvoir faire quelques pas sans la grâce unique et pleinement de Jésus-Christ. Et c'est ce que fait notre texte d'aujourd'hui. La loi représente le premier pas vers la compréhension de l'Évangile. Et dans l'évangélisation, est-ce que tu sais que Dieu a un beau plan pour ta vie? Et un plan pour quoi? En quoi est-ce que j'ai besoin? Loi et Évangile doivent impérativement être pairs. Sans la loi, il n'y a pas de place pour l'Évangile. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une bonne nouvelle s'il n'y a pas une mauvaise nouvelle avant? La loi représente donc le premier pas vers la compréhension de l'Évangile. Loi et grâce ensemble, loi et grâce ensemble contribuent à nous amener au Christ. Si nous ne faisons pas comprendre, ou si nous ne faisons que comprendre la loi sans voir la grâce, nous tombons dans le piège de voir Dieu comme une espèce de grand policier cosmique qui va nous empêcher de nous épanouir. Le Dieu qui a toujours la main levée, le prêt à châtier, on va voir une espèce de Dieu si on a seulement la loi sans la grâce. Et c'est ce que Satan a fait en Éden, d'ailleurs, hein, avec Ève, alors qu'il a maximisé la restriction de la loi de Dieu et minimisé sa gracieuse bonté. Le Seigneur avait dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf de un. Satan a dit, vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Voyez-vous sur quoi il met l'emphase? Maintenant, si nous ne nous concentrons que sur la grâce, sans voir la place de la loi, alors là, nous voyons Dieu comme un grand papa cosmique qui nous comprend et qui laisse à peu près tout passer. La loi et la grâce vont main dans la main, pointent vers notre besoin du Christ. Et vous savez, c'est la différence entre être réformé et être sous le couvert de ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie de du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Comme s'il n'y a plus de place pour la loi dans la vie du croyant. On n'est aucunement sauvé ou justifié ou gardé sauvé par la loi. Mais la loi a une importance parce que c'est lorsqu'on vient au Christ que la loi commence à avoir de l'allure dans nos vies. On trouve donc que c'est une belle loi et on veut véritablement s'y soumettre, n'est-ce pas? Et grandir dans la sanctification, c'est se servir de la loi comme jauge pour savoir où on est rendu. Donc, la loi et la grâce vont main dans la main et pointent vers notre besoin du Christ. Dans la personne du Christ Jésus, nous voyons que la loi est bonne, qu'elle est parfaite, conçue pour notre plein épanouissement en tant qu'être humain, et que ce même Jésus-Christ est le seul qui l'a pleinement accompli. En Christ, nous voyons donc la pleine signification de la grâce de Dieu. On voit toute la gravité du péché, ça l'a amené à la croix, et on voit toute la manifestation de la grâce par sa résurrection. En Christ Jésus, nous recevons notre pardon complet et gratuit. En Christ Jésus, nous recevons notre pardon complet et gratuit. Nous voyons donc le rapport avec notre texte d'aujourd'hui. Nous lisons ce texte et après le verset 17, nous confessons tous que nous avons péché et que nous péchons. Pourquoi donc cette exhortation? Pour bien nous faire réaliser que nous sommes encore des pécheurs nécessiteux, que nous avons été pardonnés, que nous avons reçu une nouvelle vie, que nous sommes appelés à faire croître constamment à la gloire de notre Dieu. Ce que nous ne pouvions faire avant devient possible par la grâce de Dieu, par son esprit, par sa parole. Permettez-moi de poser une question qui peut vous sembler étonnante parce que nous sommes dans une église de chrétiens professeurs. Êtes-vous venu au Christ? Êtes-vous véritablement venu au Christ? Ou avez-vous adhéré à une religion? Il faut comprendre qu'aucun péché ne va entrer au ciel. Pas le moindre petit péché ne va entrer au ciel. Tous les péchés, qu'on les appelle mortels, cardinaux, comme si on disait tantôt capital, véniel, tout péché devra impérativement être expié. Aucun péché ne va entrer au ciel. Et pour l'expiation, il y a deux avenues, mais pas trois, deux. Si vous portez votre péché et le jugement éternel de Dieu, ben, vous allez être exposé à une expiation éternelle. Si vous gardez votre péché sur vous et que vous voulez en faire vous-même l'expiation, ça va être le jugement éternel. Aucun doute là-dessus, la parole est d'une clarté cristalline. Par contre, si vous venez au Christ, vous recevez son expiation, lui qui a fait l'expiation à la croix et lui qui a mené une vie parfaite pour nous. C'est ce qui faisait dire à l'apôtre Paul, car la prédication de la croix, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce n'est pas la prédication des œuvres. Ce n'est pas la prédication d'un salut par nos propres forces ou par nos propres moyens, ou par toutes sortes d'actes dévotionnels. Non, c'est la croix, venir se réfugier sous la croix du Seigneur Jésus-Christ. Et il ajoute en Galates 6,14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Comment, Paul? C'est l'apôtre Paul. Est-ce qu'il y a besoin de la croix? Oui. Je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Aucune de mes actions en elle-même, hors du Christ, hors de la croix, n'est recevable par Dieu. Il n'y a aucune justice recevable en moi-même. La seule justice que Dieu peut accepter, c'est la justice de Dieu. Et elle s'est pleinement accomplie dans la personne glorieuse et majestueuse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre Père, notre Dieu, que de grâce, que d'amour, que de bonté, que de persévérance, que de nous avoir sauvés. Que d'être venu, Seigneur, te chercher un peuple qui serve à la louange de ta gloire. Et Seigneur, on ne veut pas se raconter d'histoire. Si on est venu à toi, ce n'est pas parce qu'on a eu un éclair de génie en nous-mêmes. C'est parce que ton Esprit Saint nous a éclairés. Heureux es-tu, Simon-Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'Esprit de mon Père qui est dans les cieux. Si nous avons reçu cette lumière, Seigneur, nous te sommes pleinement reconnaissants et nous désirons faire ta volonté sainte et parfaite. Donne-nous, notre Dieu, de marcher toujours plus fidèlement dans tes voies, d'avoir toujours un plus grand amour pour toi et pour ta loi qui est si belle, si extraordinaire, si merveilleuse. Merci pour ces quelques propos qu'on a pu partager aujourd'hui, Seigneur, et que personne ne sorte de cette Église aujourd'hui sans avoir fait cette confession. Je suis un pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Et le seul sauveur est le Christ Jésus, selon qu'il est écrit qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen.